Arthaud. Elle est professeure agrégée d'économie, Nathalie Arthaud est notre invitée. C'est la candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle. C'est une militante de longue date et elle se présente pour la deuxième fois à ce scrutin. En 2012, elle est arrivée 9e avec 0,56% des voix. Avant de la recevoir, son portrait signé Mounir Soucy.
À chaque prise de parole, Nathalie Arthaud porte le même message. Que ce soit devant les sympathisants de Lutte ouvrière ou comme ce jour-là, face au maire de France.
Il est faux de dire qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a pour arroser les entreprises d'argent public à fonds perdu. Il y en a pour payer le CICE et le pacte de responsabilité.
Dans cette déclaration, on trouve le résumé des convictions de Nathalie Arthaud. Au sein de Lutte ouvrière, elle dénonce les écarts de richesse et l'accumulation des capitaux dans les mains d'un petit nombre. Avec Philippe Poutou, elle est la seule à avoir un emploi salarié tout en étant candidate à la présidentielle. Cette enseignante en éco-gestion dans un lycée de Seine-Saint-Denis n'était pourtant pas destinée à porter la voix d'une formation comme Lutte ouvrière.
Mes parents, c'était un milieu, d'abord milieu de commerçants, dans une région très rurale, où on ne faisait pas de politique du tout. J'étais révoltée et j'avais envie de changer bien des choses. Très vite, dès que j'ai eu des yeux pour voir ce qui se passait dans le monde, j'ai pas trouvé normal.
Son entrée sur le devant de la scène politique a lieu en 2012. Elle hérite de la délicate mission de prendre la relève d'Arlette Laguiller, visage emblématique du combat ouvrier. Dès sa première campagne, Nathalie Arthaud revendique cette filiation politique et idéologique.
J'assume et je suis fière de cette continuité. Je suis fière de m'adresser aux travailleurs comme Arlette Laguiller le faisait.
En défendant l'interdiction des licenciements, l'objectif de Lutte ouvrière n'est pas de remporter l'élection présidentielle, mais de mobiliser les classes populaires en vue d'un changement de système.
Nathalie Arthaud est notre invitée. Elle répond aux questions de Saverian Rejec. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Vous dites être la seule candidate communiste dans cette campagne. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de Philippe Poutou et de Jean-Luc Mélenchon?
Alors,
qu'est-ce qui fait de vous la seule vraie communiste de cette élection?
De Jean-Luc Mélenchon, c'est assez simple. Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été communiste. Son programme, ce n'est sûrement pas de dire que il faut exproprier la classe capitaliste qui aujourd'hui a le monopole du pouvoir économique.
Il ne représente pas le camp des travailleurs, pour vous?
Alors, il n'est pas communiste, et je pense que sa politique effectivement ne répond absolument pas aux intérêts des travailleurs, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas prêt effectivement à dire qu'il y a un combat à mener contre ceux qui instaurent leur diktat en fait sur le monde ouvrier, hein, ces grands groupes capitalistes de l'automobile, bancaire, qui peuvent décider du jour au lendemain de fermer une usine, de supprimer des emplois, de bloquer les salaires, d'augmenter le temps de travail, qui ont donc un poids phénoménal sur nos vies à tous. Eh bien moi je dis qu'il faut les combattre, qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se laisser imposer ce diktat. Ce n'est pas effectivement ce que dit Jean-Luc Mélenchon.
Et Philippe Poutou?
Alors Philippe Poutou, lui, oui, il pense que le capitalisme, il faut le renverser. Bon, donc on a ça effectivement en commun. Et en même temps, bah, on est deux courants avec nos nuances, nos différences. Bon, bah là, moi, je veux centrer cette campagne sur justement la conscience de classe, la conscience ouvrière, la fierté ouvrière.
Justement, vous
alors que l'UNPA va faire une campagne plus multicarte.
Conscience de classe, est-ce que c'est pas dommage de ne pas avoir réussi à se faire s'unir justement toutes ces forces de la gauche révolutionnaire?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'une élection...
Vous avez le même vocabulaire que Philippe Poutou?
Pas tout à fait. Non. Pas tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on a... on a véritablement nos différences. Je pense que dans une élection, nos deux courants doivent aussi pouvoir s'exprimer. Derrière nous, il y a plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui se reconnaissent dans nos courants. Il n'y a pas de raison de se priver, que ce soit l'un ou l'autre, de faire campagne. Et parce que simplement, nous additionnerons nos voix. Nous ne sommes pas concurrents.
Très bien. Alors récemment, on va venir à votre programme, mais récemment vous avez déclaré que cette élection était une comédie. Pourquoi avoir choisi d'y participer si c'est une comédie?
Pour la dénoncer. Pour la dénoncer, parce que je pense qu'effectivement, les travailleurs ne doivent pas se laisser abuser par tous ces engagements, tous ces programmes, qui ne sont que des promesses, qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. Voilà, et comme à chaque fois, je veux qu'ils réfléchissent à ce qui s'est passé à chaque élection, alors qu'on en a vu des présidents de la République défiler. On a vu des majorités différentes être constituées. Et au bout du compte, les quelques mesures favorables qui étaient agitées le temps d'une campagne sont toujours les mesures favorables vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis du monde ouvrier et des classes populaires qui étaient agitées pendant la campagne, ont toujours été abandonnées. Abandonnées face à quoi ? Face aux demandes du grand patronat. Donc, moi, je dénonce ce pouvoir qui s'impose par-dessus, en fait, les présidents de la République.
Alors, vous dites aussi que ces élections ne sont pas essentielles. Ce qui est essentiel, dites-vous, c'est que le peuple descende dans la rue. La seule voie de changement, c'est le grand soir, c'est la grève.
Regardez ce qui se passe
même
en Guyane.
En 2017.
Regardez ce qui se passe en Guyane. Vous croyez que deux ministres seraient accourus comme ça, avec quand même au moins un peu d'argent à mettre sur la table, s'il n'y avait pas eu cette levée massive de la population guyanaise pour dénoncer effectivement leur sort, leur abandon par l'État français qui pourtant s'enorgueillit d'être présent sur les 5 continents, d'être présent sur le continent américain, mais qui est très fier de cette base spatiale à Kourou. Qui dépense effectivement beaucoup d'argent, mais qui est incapable d'apporter de l'eau courante et de l'électricité aux Guyanais. S'il ne s'était pas levé, s'il n'y avait pas eu cette colère, cette paralysie du pays, il ne se serait rien passé pour eux. Donc moi, je crois que c'est effectivement un exemple à suivre. Et puis vous savez, en réalité, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier. La condition ouvrière n'a progressé qu'au travers des luttes puissantes, collectives, et en imposant un rapport de force au patronat, justement.
Alors, justement, votre programme, on y vient. La mesure phare, c'est l'interdiction des licenciements et des plans sociaux, l'interdiction du chômage, le 0% chômage. Comment on arrive aujourd'hui au 0% chômage ? On interdit les licenciements, on empêche les patrons.
Et moi, ça me semble tellement évident, si vous voulez, parce que quand on dit qu'il faut combattre le chômage, il faut qu'on arrête cette hémorragie de suppression d'emplois. Moi, je suis... scandalisée de voir que la BNP Paribas, qui a réalisé 7,7 milliards de profits, supprime 700 emplois, qu'elle prévoit la fermeture d'agences. Je suis scandalisée de voir que c'est pareil chez Peugeot, chez SFR, chez Sanofi. Ces grands groupes qui sont richissimes, ils ne devraient pas avoir l'autorisation, on devrait leur interdire de supprimer des emplois. On devrait
toutes
quand même
les entreprises françaises ne sont pas des grands groupes. Vous êtes professeur d'économie, vous le savez pertinemment. Et puis, même si on regarde que ces multinationales, il y a 2 millions de salariés aujourd'hui qui travaillent uniquement en France pour ces multinationales. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que deviennent ces salariés si demain, on chasse ces multinationales de France ?
Alors, d'abord, 2 millions, c'est quelque chose d'important. Et puis, vous ne comptez
2 millions de salariés.
Et vous ne comptez pas les salariés des filiales, de toutes les entreprises qui dépendent de ces grands groupes parce qu'elles sont sous-traitantes, parce qu'elles s'occupent de la maintenance.
Donc la question est, si on fait fuir ces entreprises de France, que deviennent ces salariés ?
Moi, je pense que ces grands groupes capitalistes, effectivement, ils dominent toute l'économie et ils sont en train de pousser le monde du travail, la classe productive, à la catastrophe avec ce chômage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un coffre-fort à la place du cœur, en quelque sorte. Et parce que pour... arroser leurs actionnaires, eh bien oui, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts, effectivement, à ravager des régions entières avec ce chômage, à bloquer les salaires. Il faut les en empêcher. Sinon, où allons-nous ? Où allons-nous ? Si on se soumet à leur politique, vous savez, c'est pas 9 millions de pauvres qu'on comptabilisera dans notre pays. C'est 10, c'est 12 millions. Donc il y a un bras de fer, effectivement, à mener contre ces grands groupes.
Et de la même manière, au-delà des grands groupes, qu'est-ce que vous répondez aux petits patrons qui ont des difficultés financières ? Vous les forcez à embaucher ?
Mais
de les licencier alors qu'eux-mêmes sont dans des grandes difficultés financières ?
Je leur dis que ça va résoudre une grande partie de leurs difficultés. Parce que la difficulté de ces entreprises, vous savez, la première, c'est de ne pas avoir de clients. C'est que justement les classes populaires sont tellement appauvries aujourd'hui qu'elles ont bien du mal à consommer, à faire réparer leurs voitures, et effectivement lutter contre le chômage, lutter contre la misère, eh bien ça va aussi de pair avec leur intérêt. Moi c'est ce que je pense. Et vous savez, ces grands groupes, moi j'insiste parce que je pense qu'il faut prendre le problème par ce bout-là, parce que c'est eux en fait qui dominent, mais y compris ces petites entreprises, qui les étranglent en leur imposant des contrats inégalitaires, de dominé à dominant, Il faut prendre le problème par ces grands groupes. Et moi, quand je les entends, quand j'entends les dirigeants, ils parlent comme si leurs intérêts, l'intérêt de leur entreprise, de leur multinationale, correspondaient à l'intérêt de toute la population. La réalité, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'ouvriers, de femmes et d'hommes qui travaillent pour eux, mais il n'y a qu'une minorité qui profite. De toutes ces richesses. C'est la minorité, effectivement, capitaliste. C'est parfois des grandes familles bourgeoises. Ce n'est absolument pas l'intérêt collectif. Donc l'intérêt collectif, c'est au contraire que ces entreprises, elles fonctionnent pour, effectivement, créer des emplois, pour satisfaire les besoins aussi de la population, pour investir réellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Néanmoins, pardonnez-moi, vous ne répondez pas à la question qui est comment empêcher ces entreprises de quitter la France.
Ah mais moi je suis pour...
Elles partiront. Les investissements, la croissance et l'emploi.
Vous me dites que si elles menacent de partir, eh bien moi je pense qu'il faut les menacer d'être expropriées. Il faut les menacer de réquisition.
On va y venir. Mais avant cela, votre deuxième grand chantier, votre deuxième mesure phare dans le programme, c'est la répartition du travail pour tous. Vous voulez donc réduire le temps de travail, mais avec une compensation à 100%, c'est-à-dire par exemple, si on travaille 32 heures, on serait compensé à 100%, c'est-à-dire payé 39 heures. C'est
bien sûr, et je suis aussi pour augmenter les salaires. Parce qu'aujourd'hui, avec un SMIC, on a beaucoup, beaucoup de mal. On peut travailler, effectivement, s'user au boulot, faire des journées, et toutes les femmes de ménage, les aides à domicile, elles font des journées fractionnées avec un temps incroyable dans les transports, et tout ça pour des fois 900 euros, 800 euros pour le SMIC, 1000 euros, ça veut dire que ce sont des travailleurs pauvres, et il y en a plusieurs millions dans le pays. Donc effectivement, il faut absolument maintenir un salaire complet, et moi je suis pour que ce salaire, ce minimum salaire soit élevé à 1800 euros net par mois. Quant à la répartition du travail, ça me semble tellement évident aussi. Parce que quand on voit que les horaires, la charge de travail s'est alourdie de partout, et c'est vrai dans le privé, c'est vrai dans le public aussi. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, avec les infirmières, les aides-soignantes qui expliquent qu'elles ne peuvent même pas prendre leurs jours de congé, qui courent en permanence, qui sont... il faudrait qu'elles aient quatre bras. Il faut effectivement soulager cette charge de travail en embauchant des jeunes. Voilà comment on pourrait résoudre le chômage. Pour moi, en tout cas, c'est une priorité, c'est une nécessité.
Vous parliez à l'instant de lutte contre la pauvreté. En matière de lutte contre la pauvreté, qu'est-ce que vous pensez du revenu universel proposé par Benoît Hamon ?
Je pense que les millions de femmes et d'hommes qui aujourd'hui galèrent dans la pauvreté parce qu'ils n'ont droit qu'à des petits jobs, ils rêvent d'un emploi. Ils rêvent d'un emploi. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette aumône-là de 750 euros consistant à dire comme il n'y aura pas de place pour tout le monde, on vous donne quand même...
Le revenu universel, c'est une aumône ?
Mais oui, c'est exactement comme ça que M. Hamon l'a présenté, en expliquant que comme il va y avoir de la modernisation, plus de machines, il n'y aura pas du travail pour tous, donc il faut assurer un minimum. Non, désolé. Même s'il y a moins de travail effectivement à faire, il faut qu'on se le répartisse et que chacun puisse être intégré à une activité utile. Moi, je crois que le travail, c'est aussi la dignité. Et je pense que ceux qui sont invalides, handicapés, doivent aussi avoir leur place. On doit pouvoir tous travailler en fonction, effectivement, de ses moyens.
Nathalie Arthaud, vous portez une candidature ouvrière. Aujourd'hui, dans cette campagne, dans cette élection, un ouvrier sur deux en France s'apprête à voter, ou dit être prêt à voter, Front National, Marine Le Pen. Pourquoi la classe ouvrière s'est complètement détournée de vous, de ses représentants ?
Alors d'abord, ce n'est pas l'échec de lutte ouvrière. C'est d'abord l'échec de la gauche gouvernementale. Parce que c'était l'électorat du Parti communiste, l'électorat du Parti socialiste.
Et de la gauche révolutionnaire.
Et en partie. Mais vous savez, nous, vous avez souligné mon score en 2012. Je ne crois pas que je vais perdre beaucoup d'électeurs, vous voyez. Non, je crois que, effectivement, tout un électorat populaire a été désorienté, écœuré par les reniements de la gauche qui, à chaque fois, brandit des promesses. Vous savez, il faut se souvenir de la campagne de 2012. Il faut se souvenir de la promesse de M. Hollande. Alors bon, c'est la finance, c'est mon ennemi, mais aussi les 75%.
Je parle de la gauche révolutionnaire.
Oui, mais moi je vous dis que c'est ceux-là qui se tournent vers le Front National. Ils votaient pour le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Donc c'est d'abord et avant tout leur échec et leur passage effectivement au gouvernement où à chaque fois, finalement, ils se plient au diktat du grand patronat. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ces travailleurs sont désorientés, sont déboussolés et ils sont prêts à se jeter dans les bras du pire charlatan, Marine Le Pen. Et moi, ça, je vais profiter de cette campagne pour dire tout le mal que je pense de sa politique. Parce que sa politique, elle consiste à dresser les travailleurs les uns contre les autres, alors qu'il faudrait au contraire s'unir collectivement et demander des comptes à ceux qui prennent les décisions de licencier, de fermer des usines, de bloquer les salaires, de faire reculer la condition ouvrière. C'est-à-dire le grand patronat. patronat. Donc voilà, moi je suis là pour dire, oui, il y a une opposition à ces politiques anti-ouvrières. Il y a une opposition, mais à l'opposé de Marine Le Pen, une opposition ouvrière, de conscience et de combativité ouvrière.
Alors, Nathalie Arthaud, vous prenez l'expropriation de la grande bourgeoisie. C'est quoi pour vous la grande bourgeoisie? À partir de quand étant un grand bourgeois?
Tout simplement à partir du moment où on n'a rien, plus rien besoin de faire de ses 10 doigts. Où on n'a plus besoin de travailler, où son travail qu'on a investi ici et là, eh bien, fait des petits, tout seul, qu'on peut dormir sur ses deux oreilles, hein, et puis se relever le matin avec plusieurs milliers d'euros sur son compte en banque. Voilà.
Donc c'est ceux qui concentrent, tout simplement les exproprient.
C'est ceux qui concentrent les capitaux. Et ce que je dis, c'est que ceux qui effectivement ne dirigent ces grands groupes que pour leur rapacité, pour leurs intérêts égoïstes, qui suppriment des emplois pour encore devenir plus riche pour, en appauvrissant la population, oui, s'ils ne respectent pas cette contrainte que j'ai dit d'arrêter cette hémorragie de licenciement, de répartir le travail entre tous, bah oui, il faut les exproprier, voilà, tout simplement. Vous savez, ces fortunes qu'ils ont édifiées, ils l'ont édifiée sur le travail volé, en fait, de générations de travailleurs. Et moi, je pense qu'on ne doit pas subir cette dictature et se vouer comme ça à être des esclaves d'une politique qui est contraire à nos intérêts.
Et alors, après l'expropriation, vous nationalisez les banques, les usines. Pour vous, quoi qu'il arrive, l'État fera mieux que n'importe quel opérateur privé?
Les travailleurs, collectivement, je n'ai pas parlé de l'État, parce que moi, je pense que aujourd'hui, les conseils d'administration, ils sont effectivement tenus par ceux qui possèdent les capitaux, par les grands actionnaires qui ont les principaux, qui ont placé leur argent là. Ben, moi, je pense que ces conseils d'administration devraient être composés pas par les salariés de l'entreprise, par des représentants de la population, des consommateurs, par la société. Je ne parle pas d'un État qui serait au-dessus de la population. Je parle bel et bien de la population elle-même. Parce que je pense que si on fait tourner les entreprises, on est aussi capable de prendre un certain nombre de décisions.
Très rapidement. Que vous inspire Nathalie Arthaud? Que vous inspire Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est de gauche pour vous?
Mais moi, gauche, droite, vous savez, ça fait longtemps que ce n'est plus des critères pour moi, parce qu'au gouvernement, ils ont tous mené une politique anti-ouvrière.
Est-ce que
Monsieur Macron,
pour lui,
on l'a vu
pendant face à Marine Le Pen.
On l'a vu pendant deux ans, être l'initiateur même de deux lois anti-ouvrières, Monsieur Macron. Moi, dans cette campagne, je le dis aux travailleurs, ne vous laissez pas abuser, ne tombez pas dans ce piège qui consiste à croire qu'il faut élire le prochain président de la République qui va forcément faire reculer les retraites, qui va forcément aggraver nos conditions de vie, parce que la seule politique qu'il connaît, c'est de se mettre au service de cette classe capitaliste. Donc je leur dis que l'enjeu, c'est au premier tour, l'enjeu, c'est de faire entendre le camp des travailleurs, de montrer qu'il y a un courant de femmes et d'hommes qui ne se résignent pas, qui sont conscients de leurs intérêts, qui sont prêts effectivement à se battre, qui lèvent le drapeau des luttes collectives. L'enjeu, il est au premier tour.
Très bien, merci beaucoup, merci Nathalie Arthaud d'avoir été notre invitée, merci.